Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Les Français sont-ils heureux en entreprise? Difficile de répondre à cette question tant les enquêtes d'opinion sont contradictoires sur le sujet. Oui à 75% au dire d'un récent sondage réalisé par l'IFOP pour le magazine Pèlerin, non semble parfois répondre le quotidien au vu des conversations de bureau, étant nous Français avons la réputation de nous plaindre. Étrange paradoxe français que celui de la France. Quoi qu'il en soit, peut-on réellement être heureux en entreprise? N'est-ce pas là un idéal impossible? Et si ce bonheur est à portée de main, que faut-il que chef d'entreprise et salarié mettent en œuvre pour l'atteindre? Voilà, ce matin donc pour cette émission Être heureux en entreprise. Alors il y a du monde autour du plateau, mais d'abord je vais commencer par présenter le père Pascalide, qui est avec nous au téléphone depuis Paris. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc prêtre de la communauté de l'Emmanuel, donc communauté, on va dire, du renouveau de l'Église catholique. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous êtes docteur en médecine, en théologie, en philosophie, et vous êtes l'auteur donc d'un ouvrage avec lequel on va commencer cette émission, intitulé « Le burn-out, une maladie du don », paru aux éditions de l'Emmanuel Casar. Autour du plateau, il y a aussi Gilles de Raffin, vous êtes membre du bureau du MEDEF, chef d'entreprise, voilà une entreprise d'une trentaine de salariés. Patrice Béranger, vous êtes à la tête de Magellium, voilà entreprise à peu près de 150 salariés que vous présenterez un petit peu plus tard. Je vous dis bonjour, pardon à chacun, bonjour.
Bonjour.
Voilà. Jeanlin Tout-le-Monde, vous êtes responsable de Acte Toulouse, association d'aide au reclassement professionnel. Bonjour.
Bonjour.
Et Frédéric Delbès, vous êtes gérant du cabinet Agentes et coach. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on commence avec vous, Père Pascalide. Peut-être une réaction sur ce chiffre que je citais en introduction, avant qu'on se plonge un peu dans votre ouvrage. Le bonheur des Français au travail, régulièrement, étrangement, j'ai envie de dire, on tombe sur ces enquêtes d'opinion qui disent que les Français sont heureux au travail. Est-ce que vous, c'est les échos que vous avez eus?
Pas un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, donc je n'aurais pas vraiment de réponse compétente à vous donner. Je vois bien, si on parle spécifiquement du burn-out, une phrase typique d'infirmière qui tout à coup retentit en moi, c'est « Je fais le plus beau métier du monde, il n'empêche que je souffre de ce qui me rend heureuse. » Donc, je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Un certain nombre de personnes peuvent faire un travail qui leur plaît, mais malheureusement, le contexte lui-même fait qu'ils n'ont pas ce qu'ils peuvent en attendre comme retour qui serait suffisamment gratifiant pour eux. C'est l'exemple qui me vient, mais je n'ai pas de chiffres précis à vous donner. Moi, je vois d'autres études. J'ai cet été le travail invisible de Pierre-Yves Gomez ou bien les travaux d'Yves Clos. Il y a quand même aujourd'hui en France une grosse souffrance liée au travail.
Alors, si on attaque en tout cas sur cette souffrance, c'est vrai qu'il y a donc ce qui est en train de devenir un phénomène. En tout cas, on voit régulièrement des unes de magazines ou d'hebdomadaires sur le sujet. Donc le burn-out, et vous avez fait donc un livre avec donc cet intitulé, on va dire original, une maladie du don. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en fait de l'ampleur du phénomène du burn-out? Est-ce que c'est en train de devenir, je sais pas, une maladie contemporaine?
Alors, de fait, on en parle de plus en plus. C'est un petit peu comme les personnalités narcissiques, qu'on appelle parfois de manière un peu imprécise, pervers narcissiques. De fait, autrefois, on n'en parlait pas assez. Aujourd'hui, on en parle trop. Le burn-out, c'est la même chose. Hein. Souvent, ce que l'on estampille burn-out, c'est en fait des pré-burn-out. Le vrai burn-out, avec tout ceci, on pourrait y revenir, c'est 1% de la population. Alors, certaines études font état de 10%. À un moment, on disait, en France, je ne sais pas, il y a 32 millions de personnes actives. Ou des 3,2 millions qui seraient touchés par cela, non. Mais par contre, l'état de pré-burnout, oui, ça touche un certain nombre de personnes. Et encore aujourd'hui, on ne connaît pas trop. Tout le monde connaît le symptôme principal qui est la grande fatigue, l'épuisement émotionnel. Mais on ne connaît pas par contre les deux autres signes du burn-out qui sont pourtant constitutifs du tableau.
Ces deux autres signes étant donc
dans ce qu'on appelle la dépersonnalisation, le fait que le travail lui-même n'est plus vécu comme un lieu où je rentre en contact avec l'autre. Par exemple, ça va être le médecin qui va dire « bon ben, je vais rencontrer la cirrhose de lit 38 ». Et non plus la personne qui est dans ce lit, donc espèce de mise à distance un peu cynique. Ça, le cynisme est un signe important. Et puis le troisième signe important, qui est la diminution de l'accomplissement personnel. Le fait que ce qui était au point de départ, le lieu même de ma joie, devient un lieu de souffrance de plus en plus grande, avec une espèce de spirale. On a l'impression que si on prend la cause qui est celle du don, on a l'impression que donc en effet on se donne moins qu'avant, on va se donner encore plus, ça va précipiter le phénomène lui-même qui va s'auto-entraîner. Alors, c'est vrai que le phénomène est peu connu, hein, même si on en parle beaucoup.
Alors vous, donc je disais qu'il y a un sous-titre original, je ne sais pas si ce qui est à l'origine du succès de votre ouvrage, j'imagine que ce n'est pas la seule raison, donc la maladie du don. En page 43, vous osez même le mot amour, vous dites qu'en fait il y a un certain nombre de personnes qui font leur travail avec amour, alors vous citez peut-être des métiers qui sont particulièrement exposés, les enseignants, les éducateurs, enfin concernés, pardon, les soignants, travailleurs sociaux, etc. Quelle est la thèse de fond de votre ouvrage qui fait écho à ce titre?
En effet, hein, c'est une hypothèse, à force d'écouter des personnes, je me suis rendu compte de ces plusieurs aspects convergents. Hein. Le premier, c'est que ça survient souvent sur des personnes à haut idéal et à grande exigence, mais non pas le contraire. Deuxièmement, c'est vrai que vous venez de le dire très justement, il y a vraiment des secteurs qui sont davantage touchés, donc les trois grands secteurs, des enseignants, des soignants, des éducateurs, particulièrement exposés. Or, ce sont, comme disent les anglo-saxons, des « helping professions ». Et ce qui m'intéresse aussi, bien sûr, c'est la deuxième raison pour laquelle j'ai écrit cet ouvrage, c'est qu'on en rencontre plein dans le milieu ecclésial, autant des prêtres que des pasteurs. Je vais donner un chiffre que j'ai vu sur un site américain, des pasteurs, donc pasteurs protestants, hein, toute église confondue, disaient qu'il y en avait 1500 qui partaient tous les mois pour des phénomènes de gros épuisements, donc c'est un chiffre colossal. Donc là aussi, bien sûr, fait partie des personnes qui ont une très grande exigence de don.
Alors, moi, je vois ça. Oui. Pardon, à ce sujet, vous faites, enfin, dans votre conclusion, vous dressez, alors c'est assez chirurgical et c'est assez terrible, oui. Surtout quand on travaille dans une radio chrétienne et qu'on croise beaucoup de prêtres qui sont en effet, je ne sais pas s'ils sont au bord du burn-out, mais en tout cas qui ont l'air extrêmement sollicités. Vous décrivez d'une certaine manière un peu toutes les causes qui entraînent cette conséquence terrible du burn-out et particulièrement à l'égard des prêtres. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Alors on a compris cette maladie du don, mais dans l'Église, c'est quoi? C'est plus qu'un phénomène dans ces cas-là?
Alors oui, vous savez, moi je suis formateur dans un séminaire, donc je vois ça pendant 6 ans, on voit des séminaristes qui n'ont qu'un seul désir, c'est de se donner à la suite du Christ, hein, ils sont comme des chevaux qui piaffent à l'écurie, et donc quand on les lance, ils vont en effet s'épuiser. Et c'est vrai qu'on les rencontre davantage dans les premières années du sacerdoce, ce que je dis pour les prêtres, mais aussi pour des agents pastoraux très investis, pour des religieux, etc. Donc là, on voit des personnes qui... Vous savez, ça arrive, il y a deux causes hein, qui à repérer, parce que se donner comme un chrétien, nous savons que c'est le cœur même, hein, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie, ou bien la parole du Concile Vatican II, hein, l'homme ne se trouve que dans le don sacerdoce de lui-même. Mais il y a deux dysfonctionnements. Le premier, c'est lorsque vous donnez et vous oubliez de recevoir. C'est le prêtre qui... Moi, je vois un prêtre qui me dit, oh là, cet été, finalement, je n'ai eu que 4 jours de vrai repos. J'allais de camp scout à session, à parel monial. Et de fait, à la fin, quand il a commencé au mois de septembre, là, il était quasiment incapable de sortir sa poubelle. Donc, symptôme typique, là, par contre, de burn-out, une espèce d'incapacité à poser les actes élémentaires. Donc, il y a le fait qu'il va beaucoup donner et pas recevoir, notamment pas recevoir le temps de repos dont il a besoin. Et la deuxième, qui est plus subtile et qu'on retrouve là beaucoup en entreprise, pour vous en parler tout à l'heure, c'est que je donne de la main droite, mais secrètement, de la main gauche, je suis en train d'attendre un retour. Et je pense qu'on pourrait appeler, au sens étymologique du terme, l'impureté, c'est-à-dire le mélange, le fait que je donne et qu'il y a une petite partie de moi qui se recouvre, qui se retourne sur moi, fait que le don n'est plus ce qui va me recharger et me rendre heureux. Parce qu'un don qui est véritablement tourné vers l'autre, un don désintéressé, nous procure une joie imprenable. Donc ça c'est quelque chose que j'observe, malheureusement, j'observe souvent hein, dans le milieu ecclésial, et on commence en fait très alerté. Vous voyez, en Italie, on est davantage, en Allemagne, en Belgique, comment ça va, aux États-Unis beaucoup, en France, pas encore beaucoup.
Alors vous donnez un remède, en fait, donc, que vous développez dans votre ouvrage, vous dites donc il faut apprendre à recevoir, apprendre à s'approprier et réapprendre à donner. Alors si vous deviez nous développer rapidement pour mettre en bouche chacun de ces items.
Oui, en effet, j'ai vu ce que j'appelle une dynamique du don qui n'est pas... Alors bien sûr, je ne suis pas Dieu, donc je ne peux pas que donner. Donc on voit bien qu'il faut doubler le don d'une réception. Donc déjà, le don est un mouvement à deux temps. Je reçois pour donner. Mais en travaillant notamment Saint Bernard et d'autres auteurs, je me suis rendu compte que nous ne sommes pas des canaux. C'est une image que donne Saint Bernard qui est très éclairante. Il parle à son frère qui était ancien moine, qui est devenu pape. Il dit « Attention !» Ce qui t'est donné, il y a des choses qui te sont données pour toi, que tu dois recevoir, mais qu'il te faut intérioriser. Donc il y a un temps intermédiaire Si on peut prendre l'image de l'arbre, un temps intermédiaire qui en fait l'appropriation, l'intériorisation, c'est je reçois, j'intériorise ce qui m'est donné, et après, par débordement. Et donc concrètement, il va dire à son frère, tu vois, il t'est donné un temps pour te reposer, et bien ce temps, il t'est donné à toi, si tu prends sur ton temps de sommeil, tu le paieras d'une manière ou d'une autre, et tu n'arriveras plus à te donner. Alors si on peut prendre notre image, l'image biblique, d'embrassement biblique, hein, aussi philosophique de l'arbre, nous sommes des êtres qui avons des racines, donc nous recevons, nous avons bien sûr des branches, nous sommes appelés à porter du fruit, mais entre les deux, il y a un tronc, et plus le tronc est solide, et plus nous porterons de fruits. Donc le mouvement du don est un mouvement donc à trois temps, et c'est souvent le deuxième temps qui est le plus à mal. On ne sait pas garder, par exemple, les reconnaissances qu'on nous donne, et on nourrit peu son estime de soi, sa confiance en soi, qui sont nécessaires pour pouvoir donner par surcroît, non pas involontairement, en manipulant ou en récupérant la gratification.
Alors vous pensez que comment dire que ce modèle, on va dire, de don est transposable au milieu de l'entreprise, et si oui, qu'est-ce que vous donneriez comme clé?
Alors, c'est un milieu que je ne connais pas, hein, je n'ai jamais été en entreprise, hein, donc ma parole n'est pas une parole autorisée. Ce que je dirais, c'est que je vois en tout cas qu'en entreprise, comme partout ailleurs, le don commence à s'introduire quand je commence à laisser naître en moi de l'amertume. Ça, je suis extrêmement vigilant. Alors, la colère est parfois très très juste parce que de la part de manager, par exemple, je ne vais pas recevoir le retour dont j'ai besoin de façon juste. Donc ça, c'est. Mais la colère n'est pas l'amertume. L'amertume, c'est il s'introduit en plus en moi une espèce de rancœur qui fait que je commence à murmurer intérieurement. Je commence à murmurer contre mon manager, contre l'entreprise, contre les autres. Et petit à petit, alors qu'avant je payais de ma personne, je commence à faire payer aux autres tout ce qui m'habite. Et donc je vais projeter sur l'institution. Donc ça, je pense que cette vigilance me paraît extrêmement importante.
Alors, on a envie de dire ça, tout le monde y est confronté un jour ou l'autre. Donc comment on en sort, ou comment on rentre dans une dynamique juste?
Alors, sur le fond, moi, je pense que la seule manière pour sortir en effet de cette amertume, hein, qui fait qu'on tempête, c'est la gratitude. C'est-à-dire que je ne vais pas donner en attendant un retour, mais je vais donner en ayant conscience que j'ai déjà reçu. Moi, aujourd'hui, dans ma vie, ça change tout. Si je vais, donc, imaginons, je sais pas, moi, je vais offrir un repas à des amis, très bien, et ces amis pourront me le rendre ou pas me le rendre. Si je le fais quelque part en attendant que mes amis le rendent, là va commencer à naître l'amertume. Alors que si je le fais, ils disent, bon, ils ne le font pas, c'est dommage, donc je serai triste, mais je ne serai pas amer. Parce que je l'ai fait, parce que moi-même j'ai conscience que j'ai reçu, et que c'est pour moi une joie, pas forcément reçu des amis, hein, reçu d'autres personnes, et je le fais par surabondance. Moi, c'est ce que j'appelle la conversion du don. Non pas d'attendre de l'autre, hein, c'est une espèce de don-initiative, mais mon don lui-même est toujours une réponse. Ça, c'est la parole de l'Évangile qui, pour moi, est la parole clé. Matthieu 10, verset 8. Hein. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.
Eh ben, merci beaucoup, Père Pascalide. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le Burnout, une maladie du don, paru aux éditions de l'Emmanuel et Casar. On va faire une première pause musicale, et puis après, on va donner la parole aux chefs d'entreprise et autres coachs qui sont présents en plateau.
J'irais bien planter mon grain de riz au lieu de me tourner les pouces. Planter mon grain de riz là où rien ne pousse. Mais mon pauvre petit grain de riz, sitôt qu'ils l'auront trop cuit et qu'ils l'auront tout mangé, va jamais pousser. J'irais bien mettre un grain de folie sur l'écran de leurs habitudes. Mettre un grain de folie dans leur solitude. Mais mon petit grain de folie, quand ils en auront bien ri, je sais que pour me l'ôter, ils vont m'enfermer. Grain de sel, mon grain de sel, fondra comme une étincelle sur ta langue, et rien que là où ne fondra pas, où ne fondra pas. J'irais bien glisser mon grain de sable dans l'ordre et la paix civile. Glisser mon grain de sable au milieu des huiles. Mais mon pauvre petit grain de sable, dans quelle eau ces incapables, dans quel béton mal coffré vont-ils le jeter? Grain de sel, mon grain de sel, fondra comme une étincelle sur ta langue, et rien que là où ne fondra pas. Ne fondra pas. J'irais bien mettre un grain de beauté dans leur maison, leur message. Mettre un grain de beauté dans leur paysage. Mais mon petit grain de beauté, ils voudront le faire sauter. Quand ils m'auront bien fait mal, tout sera normal. Si j'allais poser mon grain de sel dans leur salle ou leur salade. Poser mon grain de sel dans leur purée froide. Ou dans leur bac à vaisselle. Grain de sel, quand il aura disparu, toi tu m'aimeras plus. Quand il aura disparu, toi tu m'aimeras plus. Grain de sel, mon grain de sel, fondra comme une étincelle sur ta langue et rien que là, ou ne fondra pas, ou ne fondra pas.
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, cette émission ce matin, donc être heureux en entreprise, tout un programme, tout un défi, mais peut-être aussi toute une réalité. Je rappelle au début de l'émission, dernier coup de pub, nous étions en ligne avec le père Pascalide depuis Paris, auteur du livre Le Burnout, une maladie du don, paru aux éditions de l'Emmanuel et Casar, un livre à lire. Et autour du plateau, je rappelle, il y a donc Gilles de Raffin, qui est membre du bureau du MEDEF 31, donc Haute-Garonne, chef d'entreprise, Patrice Béranger, également chef d'entreprise, Jeanlin Tout-le-Monde, responsable de Acte Toulouse. Donc association d'aide au reclassement professionnel, Frédéric Delbès, qui est gérant du cabinet Agentes et coach. Peut-être avez-vous une réaction, vous Patrice Béranger, vous me disiez pendant la pause musicale vous aviez un commentaire. Alors, on va pas passer toute cette partie à commenter ce qu'a dit le père Pascalide, mais malgré tout voilà, ça pose des questions.
Alors, c'était pas exactement un commentaire, c'est un éclairage un peu différent. En tant que chef d'entreprise, le père Pascalide a dit qu'on pouvait donner et oublier de recevoir. Dans l'entreprise, les collaborateurs généralement, quand ils s'investissent et qu'ils sont des contributeurs actifs à la performance et l'évolution d'entreprise, attendent un retour qui peut se faire en différentes considérations, ou bien financières, ou bien de formation, ou bien d'évolution de carrière. Et le process qui constitue à dire « je donne et je reçois pas » n'est pas bon dans l'entreprise. Il faut que ce soit vraiment un retour dans tous les sens. Donc, je pense que si l'environnement de travail permet aux gens de donner, ben c'est bien qu'ils le fassent, mais somme toute, ils attendent un retour.
Une reconnaissance, une gratitude, mais peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. Est-ce que vous avez, l'un ou l'autre, vous voulez dire un mot ou commenter ce qu'a dit le père Pascalide ? Non, pas spécialement. Alors, on avance. Voilà, les Français et l'entreprise. Alors, ce qui ressort en fait d'un certain nombre d'enquêtes d'opinion, c'est que les Français seraient heureux donc en entreprise, même si je dis qu'on trouve des études assez contradictoires sur le sujet, mais ils seraient particulièrement en tout cas satisfaits, ou ils aimeraient même leur boîte. Alors à 70% dans cette enquête que j'ai trouvée, sondage Opinionway récent, 70% a aimé leur entreprise, particulièrement quand c'est des petites entreprises. Alors est-ce que les chefs d'entreprise que vous êtes, par exemple vous, Gilles de Raffin, qui êtes chef d'entreprise et puis qui faites partie du MEDEF, est-ce que c'est un constat que font les chefs d'entreprise? Est-ce que c'est des choses dont vous discutez au MEDEF? Est-ce qu'il y a plus de bonheur à travailler dans une petite boîte qu'une grande?
Alors par nature, le MEDEF regroupe les grandes et les petites entreprises, donc je suis pas sûr qu'on ait des discours en privilégiant les unes ou les autres. Ce que je constate, néanmoins, on l'a beaucoup dit, le bonheur dans l'entreprise est très lié à la considération qu'on va apporter aux personnes et au travail qu'elles fournissent. Dans les PME, la relation, qu'elle soit hiérarchique ou entre les collègues, entre les personnes, est beaucoup plus directe, beaucoup plus saine que dans une grande structure où beaucoup de considérations vont entrer en compte. Je prends un exemple, si vous voulez. Quand vous faites un entretien de recrutement, un entretien d'évaluation, vous jugez, il faut le dire, dans une PME, beaucoup plus les gens dans leur globalité. C'est ce qu'on appelle, on met une note de gueule ou un truc comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on va saquer ceux qui sont comme ci, comme ça, tatoués, pas tatoués. C'est pas question. C'est qu'on considère qu'en face de nous, on a des individus, des personnes entières. Et on ne réduit pas les personnes à un numéro de sécurité sociale ou un diplôme. Ce que finalement nous oblige la loi, ce à quoi nous pousse la loi, et ce qui est plutôt appliquée ou plus appliquée dans les grandes entreprises. Donc je crois qu'à ce titre, cette relation directe et franche fait que une personne va plus facilement s'épanouir dans une PME. Alors ça ne veut pas dire que toutes s'épanouissent. Il y a forcément, vous avez des personnes qui ont des relations conflictuelles parce qu'elles ne peuvent pas s'entendre. Vous avez le mauvais patron, vous avez le mauvais salarié, vous avez le bon patron. Bon. Mais l'environnement favorise pour moi l'épanouissement du salarié. On peut prendre un exemple sur cette reconnaissance. Quand un boulanger vend son pain et voit son client qui aime le pain, ça le rend, je pense, heureux de se lever à 4h du matin pour lui faire. Au-delà de la difficulté, de la fatigue et de tout ça. La même personne qui travaille, pour la même activité dans une boulangerie industrielle, quand vous vous levez à 4h, que vous ne voyez jamais le client, que vous ne voyez personne, ni même votre chef, et que vous allez pointer pour aller, faire vos heures, sans rien voir, je suis pas sûr que vous ayez la même motivation et donc le même bonheur, alors que finalement vous faites quasiment la même chose.
Small is beautiful même, hein, c'est ce que disent certains économistes. Je ne sais pas si vous avez des commentaires, en tout cas moi j'ai une question, on peut aussi se dire que dans les grandes entreprises, dans la petite ça peut très bien se passer ou rapidement très mal se passer quand on ne s'entend pas avec son patron, alors que peut-être dans les grandes il y a peut-être plus de souplesse ou plus de, comment dire, de garde-fou au bonheur d'un salarié. On est moins peut-être tributaire aussi de la relation qu'on a avec son patron. Qu'est-ce que vous diriez de ça, Patrice Béranger? Bon, chez vous, j'imagine que non, mais...
Non, le point important pour un salarié, c'est d'être très proche de la hiérarchie. Donc, il sait que quand il va voir son patron de PME sur un problème qu'il peut avoir, ou à l'inverse, le patron quand il reçoit son salarié, il n'y a pas d'autres intermédiaires ou d'autres intervenants. Avec un grand groupe, il y avait toujours, quand je m'adressais à ma hiérarchie, à la holding, il y avait toujours quelqu'un d'autre qui devait prendre une décision, et celui qui me répondait n'était pas le décideur. Donc il me passait des messages qui arrivaient de quelqu'un qui prenait une décision. Alors quand en PME, on est face aux 5 salariés, quand on a un problème, on le traite avec lui, quand il nous pose des questions, on doit y répondre, et on ne peut pas se cacher derrière notre petit doigt. Donc c'est à nous de traiter les problèmes, et je crois que ça simplifie la relation, et ça améliore la considération qu'évoquait Gilles tout à l'heure, c'est que les salariés savent qu'ils ont d'abord une bonne idée sur la stratégie d'entreprise, une PME doit expliquer à ses collaborateurs ce qu'elle veut faire, où elle veut aller, et par quels moyens, par de la recherche, par de la diversification, par de la croissance externe, et il y a une proximité de décision qui est grande, qu'on n'a pas forcément dans les grandes structures. Et donc effectivement, on traite des cas de collaborateurs pour lesquels la performance est très en dessous de ce qu'elle devrait être, et le comportement parfois, et donc on est amené à les recevoir et le traiter très simplement. Alors, dans mon entreprise, tout le monde se tutoie, et donc je souhaite tous mes collaborateurs, et c'est réciproque, en grande majorité, et on peut se tutoyer et puis dire des choses sérieuses et traiter des cas qui méritent un changement de comportement. Voilà, des gens qui arrivent très tard et qui partent très tôt, par exemple, ça arrive, alors que d'autres font l'inverse.
Il y en a qui travaillent plus vite aussi, hein, mais bon, c'est pas le sujet.
Plus vite, après la productivité, c'est un autre sujet. Hein, mais effectivement, déjà, le comportement par rapport à ses pairs. C'est-à-dire, dans une équipe de projet, s'il y en a qui arrivent, qui font leurs heures normales, je dirais, c'est la loi et c'est bien qu'ils les fassent, et que d'autres, mais je dirais, soit un petit peu en recul par rapport à ça, c'est bien qu'on leur explique directement, sans passer par des détours quelconques. Donc, comme disait Gilles, la relation est directe, et ça, c'est un élément important.
Alors, a priori qu'on peut avoir, c'est que on peut avoir l'impression que dans le monde de l'entreprise, il y a une injonction contradictoire. C'est que on ne se lèverait pas le matin pour aller travailler d'abord pour être heureux, mais parce que il faut que ça avance, il faut produire, il faut aussi que les sous rentrent, et il y a quelque chose d'assez, on va dire, combatif quelque part, un environnement qui est combatif et concurrentiel, et donc qui ne permettrait pas le bonheur qu'on imagine. Voilà, on imagine plutôt le bonheur sous les cocotiers avec un bon cocktail. Est-ce là une contradiction, on va dire, qui rend le bonheur impossible en entreprise? Quel est votre avis aux uns et aux autres?
C'est pas forcément une contradiction. On peut mettre en place un environnement de travail le plus agréable possible pour nos collaborateurs. On sait tous que la guerre est en dehors de l'entreprise. Donc nos concurrents ont les mêmes problèmes que nous, donc il faut gagner des affaires pour les produire. Et donc même si on a un environnement de travail qui est agréable, nos collaborateurs savent qu'il faut du travail pour pouvoir avoir une activité, se développer et donc croître et embaucher de nouveaux salariés pour offrir du travail aux jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Et donc effectivement, on peut avoir un bel environnement de travail, mais on ne perd pas de vue que on a des concurrents, et donc ce sont des compétitions à chaque fois. Alors, j'en parle pas des mots un peu plus compliqués, mais c'est une vraie compétition, et donc les gens savent qu'ils sont en compétition, et donc vont un petit peu au-delà de leur travail normal pour gagner des affaires et s'impliquer sur les réponses.
Gilles de Raffin, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une contradiction ou une équation impossible, ou est-ce que pour vous c'est un faux problème ?
Non, alors je dirais l'entreprise, c'est la vie, parce que, je veux dire, d'abord, on passe au moins un tiers du temps éveillé dans l'entreprise, donc ça en fait partie. Je dirais que c'est la part, quand on parle d'entreprise, c'est la part d'économie marchande, si vous voulez, de la vie, mais on peut dire que tout est économie au-delà de l'entreprise. Alors, on doit être heureux dans l'entreprise, on doit être heureux partout. Concernant la productivité, la nécessité d'aller gagner sa vie ou d'être productive, je vois pas d'opposition avec le bonheur, et au contraire. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait être très productif en étant heureux, et je dirais même que plus on est heureux, plus on est productif. Il y a peut-être une limite, c'est la fatigue physique. Je connais pas les composantes exactes du burn-out. Je pense que la fatigue physique est quand même un composant, donc il faut faire attention à ça. Mais je vois aucune opposition entre productivité et bonheur, et je dirais bien au contraire. Quand on est productif, on se sent heureux, on se sent utile, on sait pourquoi on travaille. Donc je pense au contraire qu'il y a un cercle vertueux dans lequel un salarié, une personne doit s'efforcer de rentrer.
Est-ce que nos coachs et autres ont un commentaire sur ce sujet, Frédéric? Avec des baisses.
Oui, ça me fait penser, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et par rapport à la compétition, on peut être heureux en compétition, on l'a vu d'ailleurs aux Jeux Olympiques. On peut être dans la compétition et être heureux et se faire plaisir. J'avais retenu quelque chose qui m'avait beaucoup parlé, c'est que, puisqu'on parle de sport, les sportifs, pour être en compétition, ils ont du temps, un tiers à l'entraînement, un tiers de repos et un tiers en compétition. En entreprise, parfois on nous demande d'être 100% en compétition. Et c'est ce que disait tout à l'heure le père, on peut donner mais il faut aussi prendre le temps de recevoir.
C'est-à-dire que vous, votre expérience, c'est qu'il y a globalement quand même aujourd'hui un peu une maladie qui consiste à forcer le don des salariés ?
C'est ça, on parle de compétition, il faut donner, mais il faut aussi recevoir, c'est ce que disait le père.
Alors, quelles sont les valeurs qu'il faudrait développer en entreprise, je ne sais pas, au sein du MEDEF, à quoi vous réfléchissez, ou vous, quand vous en discutez entre chefs d'entreprise, ou vous-même qui recevez, qui accompagnez des personnes, soit pour des reclassements professionnels, soit pour des accompagnements. Moi, je m'étais noté, alors c'est des notions, hein, mais des notions importantes qu'on lit partout. Après, qu'est-ce que ça recouvre, c'est à vous de me le dire. J'ai noté considération, reconnaissance, bienveillance. En tout cas, c'est souvent ce qui est cité dans toutes les études que j'ai pu regarder rapidement hier. Voilà, quand il y a de la reconnaissance, quand il y a de la bienveillance, quand il y a une bonne ambiance de travail, souvent les gens sont contents d'aller travailler et ils sont heureux au travail, ce qui pourrait expliquer ces sondages. Est-ce que Jeanlin, tout le monde, que disent les gens qui passent par ACT ? Quelles sont les valeurs qu'il faut cultiver en entreprise pour être heureux ?
Ben, il se trouve qu'il n'y a pas très longtemps, nous avions organisé un colloque sur effectivement la bienveillance dans le monde du travail et montrer l'importance dans la performance de l'entreprise de la bienveillance. C'est vrai que ce que vous avez cité sont des facteurs qui permettent à la personne de s'épanouir. Moi, je voudrais rajouter une autre dimension qui est l'implication de la personne. C'est-à-dire que effectivement, dans une entreprise, on est soumis à un certain nombre de contraintes. Le monde de l'entreprise est un monde de concurrence et ça ne changera pas. Mais chacun a la possibilité d'apporter quelque chose, d'apporter sa pierre. Et plus on a la liberté d'apporter sa pierre, plus on va effectivement avoir la satisfaction d'avoir contribué à une œuvre commune, et on se sentira intégré et on se sentira heureux. On ne se lève pas le matin pour aller sous les cocotiers. Ça va bien une semaine. Au bout d'un moment, on finit par trouver le cocotier extrêmement ennuyeux. On se lève le matin pour se rendre utile, pour avoir le sentiment d'avoir contribué à quelque chose. Que ce soit pour faire du pain, que ce soit pour produire un article, ou que ce soit pour faire un programme informatique. Et c'est ce sentiment-là que on a été mis au bon endroit, au bon moment, et pour faire la chose pour laquelle on est vraiment fait.
Alors, puisque cette partie de l'émission, c'est la part de l'entreprise, est-ce que c'est une préoccupation quand on est chef d'entreprise ? Est-ce que c'est si facile de savoir si les gens sont à la bonne place avec en fonction de leurs compétences, est-ce que c'est quelque chose auquel vous veillez juste au moment de l'embauche, ou est-ce que de manière continue, en fait, on essaie d'être attentif à ça, Patrice Béranger ?
Bien évidemment, dès l'embauche, on veille à ce que les candidats aient un profil correspondant à nos besoins. Mais l'entreprise est une...
Et à leurs besoins.
Et à leurs besoins. Enfin, déjà, l'entreprise, après leurs besoins, très souvent, ils ont un parcours soit dans votre entreprise et ils savent comparer les environnements d'entreprise, soit ils sont débutants et là, c'est plutôt leur formation qui permet de les embaucher. Et après, ben, effectivement, on les accompagne soit en formation, soit en bilan assez régulier au moment des évaluations annuelles. Et surtout, on dialogue avec eux. Et l'entreprise n'est pas qu'un lieu de travail, c'est un lieu aussi de partage. Donc il y a des moments, il y a des pauses café, il y a des déjeuners. Et donc on a quelques occasions pour les causer avec eux, soit de leur projet personnel, soit de leur projet opérationnel. Et dans ces discussions-là, eh bien, les gens arrivent à se lâcher quoi, sur leurs attentes, à la fois de leur vie perso. Des fois, ils ont des soucis de la vie perso qui rejaillissent sur leur comportement dans le travail. Donc à nous de savoir aussi eh bien, de pouvoir adapter nos exigences en fonction du référentiel. Mais il est évident que les gens les suivent. Et on a pour levier de faire beaucoup de formations quand les gens doivent évoluer et donc franchir les étapes en termes de compétences et en termes de savoir-faire. Et l'entreprise est là aussi pour les accompagner et les faire progresser parce que c'est notre potentiel, l'individu, notre potentiel de production. Et donc il faut bien sûr l'enrichir au fur et à mesure pour qu'il soit encore plus productif.
Sur ces valeurs, peut-être Gilles de Raffin, je citais donc la reconnaissance, la gratitude. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est chef d'entreprise? C'est ça, c'est savoir accompagner ses salariés, c'est savoir les valoriser, savoir leur dire merci.
Oui, alors je crois au-delà de savoir dire merci, c'est savoir, c'est déjà aimer son travail, ce que fait l'entreprise, et reconnaître le travail que font les salariés. Je crois que ça suffit. C'est pas alors dans la manière, chacun a sa manière hein, de communiquer. Certains le font bien, d'autres le font plus mal. Mais ce qu'il faut avant tout, quand vous aimez votre métier, la production de votre entreprise, et que vous êtes conscient que c'est grâce à tous que ça avance, je pense que l'essentiel est là.
Ça paraît très simple quand on vous entend, hein, mais...
Oui, ce sont des choses qu'on va plus facilement faire et comprendre, si vous voulez, quand on est dans une PME. Parce qu'on a d'abord une entreprise qui est plus petite, qu'on connaît. Quand vous êtes par opposition, vous prenez une très grosse boîte, quand vous avez un patron à New York et qu'il s'agit de gérer un site à Belfort, si vous voulez, qu'est-ce qu'on veut? On achète sa paix sociale, mais sa paix à soi dans son bureau. Donc on fait du droit, on fait tout ce qu'on veut, mais le bonheur des salariés sur place, à la limite... On s'en fiche.
Alors Frédéric Debbet, je crois, voudrait vous apporter la contradiction sur ce sujet. En tout cas, vous, en préparant l'émission, vous avez un propos plus nuancé.
Un propos plus nuancé parce que pour moi, être heureux en entreprise, ça revient à se poser la question d'être heureux dans la vie. Hein, c'est ce que vous disiez aussi. Et je crois que... J'ai du mal à comprendre comment on peut faire une distinction entre une grande entreprise et une petite entreprise, parce que ce PDG à New York, il a peut-être des petites équipes aussi dans le pays en Europe qui va s'occuper de ses salariés. Et faire ce distinguo entre grande entreprise, on n'est pas forcément heureux, et dans la petite entreprise, on est heureux parce que le patron est à l'écoute, je ne suis pas tout à fait d'accord de faire cette comparaison. On peut avoir une PME où le président ne va pas du tout être à l'écoute des besoins de ses salariés, va être complètement fermé, et la communication sera beaucoup plus difficile. Dans des petits villages, parfois, la communication est très difficile parce qu'on se connaît tous et qu'il y a des ragots. Dans une grande entreprise, c'est un peu plus dilué, et puis il y a des services, et puis dans un service, il peut y avoir un patron qui va être très à l'écoute, et un autre service, un autre patron qui ne sera pas à l'écoute, etc. Donc voilà, c'était juste ce complément d'information.
Propos plus nuancé, enfin l'émission, c'est pas un débat pour savoir voilà. Si les grosses boîtes sont meilleures que les petites.
Est-ce qu'on peut être heureux dans
exactement, mais de fait, c'est intéressant. Je voulais aussi que vous disiez un mot des entreprises libérées. Voilà, alors c'est un concept nouveau, si j'ai bien compris, donc c'est une manière de manager qui est différente, où on a tendance à, quoi, j'allais dire, à hyper-responsabiliser, mais non, peut-être tout simplement à responsabiliser jusqu'au bout les salariés, avec un mode de management assez différent. Frédéric Delbès, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? C'est quoi ces entreprises libérées?
Un management différent, effectivement, où on va responsabiliser chaque salarié. Où on n'est pas dans un management hiérarchique en forme pyramidale, mais plutôt transversale, où chacun va pouvoir essayer de déterminer ses compétences dans l'entreprise. Est-ce qu'il sera meilleur dans tel service? Est-ce qu'il sera meilleur dans tel autre service? Et donc il va essayer plusieurs services pour voir dans quel service il peut être le plus compétent et le plus heureux. de ce fait, et avec une notion de responsabilité, de co-responsabilité. C'est-à-dire que on va, par exemple, enlever le chef d'atelier ou le chef de petit service pour donner la responsabilité aux personnes qui travaillent dans ce service-là. Et du coup, ça permet une prise en compte du travail par la personne elle-même ou par l'équipe elle-même qui va trouver des solutions. Et toutes les solutions sont étudiées en collectif. Il y a une co-décision.
Et donc, quand il y en a qui ne travaillent pas, ça se passe comment?
Et en fait, quand il y en a un qui ne travaille pas, ça s'autorégule. C'est ce qu'on disait en préparant l'émission. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir un jugement. Mais si une personne ne travaille pas dans l'équipe, ça va freiner l'équipe, ça va freiner la rentabilité, certes, aussi, mais aussi la bonne ambiance. Et donc, c'est l'équipe elle-même qui va lui dire et qui va venir lui dire, écoute, là, on a un souci, il faut qu'on discute. Et soit on arrive à trouver une solution, soit...
Et alors, ça marche ou pas? Parce que, est-ce que c'est applicable partout? Ça, je ne sais pas, mais vous citiez une entreprise dans le coin, je crois, qui
fonctionne comme ça. Oui, Poult, qui est connue dans le coin, mais il y a d'autres entreprises.
Vous pouvez dire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi cette entreprise?
Poult, c'est une entreprise de biscuiterie. Effectivement, le patron de la société a adopté ce mode de fonctionnement où il n'y a pas un président qui décide, mais ils sont tous en co-décision.
Est-ce que vous avez un commentaire? J'imagine que ce n'est pas duplicable, hein, Patrice Béranger, à n'importe quelle entreprise. Il faut avoir des salariés aussi qui sont naturellement responsables ou qui sont...
Alors, ce n'est pas duplicable en fonction du modèle de l'entreprise. Chez Poult, M. Vercrane a mis en place un modèle parce qu'il y a des chaînes de production. Et donc, en enlevant le responsable de la chaîne de production, c'est possible de le faire parce qu'il y a un référentiel qui le permet. Nous, on a des ingénieurs qui travaillent sur des projets, soit seuls, soit en équipe de 3 à 5 personnes. Et ce modèle est un petit peu différent. On ne peut pas le mettre en place tel quel. Par contre, que chaque ingénieur soit responsable de ce qu'il produit et qu'il connaisse la finalité globale de son projet, c'est important parce qu'en fait, quand il sait qu'il est contributeur à quelque chose. Et donc, c'est vrai sur un projet, c'est vrai pour l'entreprise. Et dans une PME, pour rebondir sur un débat précédent, on montre à nos collaborateurs chaque année où on veut aller. Quelle est notre stratégie, nos résultats, la diversification qu'on veut mettre en place, la recherche qu'on veut engager dans l'année. Et chacun contribue, est un acteur de cet objectif-là. Donc forcément, cette visibilité donne à chacun la capacité de s'impliquer et de mesurer le résultat, parce qu'au final, en fin d'année, ben, on voit si on atteint un objectif et si chacun y a contribué. Alors, c'est pas un modèle à la biscuiterie Poult, mais c'est déjà une implication forte de chaque collaborateur. Ce qu'on ne voit pas forcément dans les grands groupes, parce qu'une structure de 100 ou 200 personnes dans un groupe industriel, elle ne connaît pas la stratégie du groupe. Elle est sur un référentiel un peu plus petit et ils n'ont pas une très grande visibilité. Donc c'est ce qui change un petit peu dans la vie du salarié, de savoir pourquoi il travaille. Je pense que c'est un point important.
Alors on va faire une deuxième pause musicale et puis après on va voir côté salarié ce qu'on peut faire, ce que peut faire tout à chacun, peut-être y compris enfin, quand on est chef d'entreprise. Voilà, chacun a sa place, quel chemin peut-il faire intérieur pour trouver ou pour contribuer au bonheur en entreprise.
On nous dit qu'il faut tout tolérer. Je veux pas plier le genou devant tout ça. Je crois pas que le bonheur c'est ça. Revoir notre monde. Imaginez, en quelques secondes, moi je me sens bien. Allez, je te tends la main. Revoir notre monde. Imaginez, en quelques secondes, la paix règne enfin. Viens voir un autre monde. Viens voir un autre monde. Viens voir un autre monde. Viens voir un autre monde.
Un autre monde.
moi, j'ai trouvé bien meilleur que ça. La joie de me sentir voler en liberté. Si tu veux retrouver la vérité, c'est par là. Viens revoir notre monde. Imaginez, en quelques secondes, moi je me sens bien. Allez, je te tends la main. Voir notre monde. Imaginez, en quelques secondes, où la paix règne enfin. Où la paix règne enfin. Voir notre monde. Imaginez, en quelques secondes, moi je me sens bien. Allez, je te tends la main. Voir notre monde. Imaginez, en quelques secondes, où la paix règne enfin.
Radio Présence à Millau 106.5. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, cette émission Vivante Église, Être heureux en entreprise, tout un programme que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, autour du plateau, je vous rappelle, Gilles de Raffin, qui est chef d'entreprise, Patrice Béranger, chef d'entreprise, et Jeanlin Tout le Monde et Frédéric Delbès, qui sont coachs à leur manière ou qui accompagnent des personnes en reclassement professionnel. Jeanlin Tout le Monde au sein de ACT et Frédéric Delbès au sein, enfin, entre autres, gérant, pardon, du cabinet Agentes et coach. Alors, côté salarié, je le disais avant la pause, c'est vrai que, alors, comme j'ai surtout été salarié, et pour une fois je vais peut-être parler à la première personne, côté salarié, on peut, on a des leviers d'action, mais on peut avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui nous échappe dans ce bonheur, parce que c'est pas nous qui avons les rênes. Alors, que disent les coachs que vous êtes, je ne sais pas, Jeanlin Tout le Monde ou Frédéric Delbès, est-ce que déjà il y a une manière à la racine, j'allais dire, est-ce qu'il y a un péché originel du salarié que de considérer que quelque part son bonheur dépend de son patron?
Je pense que c'est une définition du bonheur qu'il faudrait repréciser.
On vous réinvitera, on fera une émission dans ces cas-là. Mais...
Ah, très, très bien. Le bonheur au travail, ça n'est pas un état de fait, c'est un état d'esprit. Il y a des gens qui sont très heureux dans des situations qui peuvent être compliquées et difficiles, parce qu'ils ont l'impression d'apporter leur pierre à l'édifice. Il y a des gens qui s'ennuient mortellement dans des situations qui apparaîtraient à d'autres comme relativement faciles. Donc le bonheur, comme le bonheur personnel, le bonheur au travail, ne dépend pas uniquement du contexte, il dépend énormément de ce que vous apportez vous-même à ce contexte.
Ça, c'est votre grand leitmotiv, en fait. C'est,
oui, quoi, comment vous avez le sentiment de
c'est contribuer. C'est le service qu'on rend, c'est la fécondité qu'on a qui rend heureux dans ces cas-là.
Oui, et puis aussi le fait que ça répond, ce que vous faites répond à des besoins que vous avez vous-même. C'est-à-dire que si je suis quelqu'un qui est intéressé par l'expertise, et c'est une des motivations importantes, je vais avoir besoin dans mon univers professionnel de pouvoir démontrer et utiliser cette expertise. Si je peux le faire, je vais me lever le matin en disant, tiens, ça, je vais pouvoir faire ça aujourd'hui. Si au contraire, je suis motivé par une dimension de service ou une dimension de challenge, et que je retrouve ça à l'intérieur de l'entreprise, je vais trouver de la satisfaction. Le bonheur, c'est autre chose.
Donc, pour répondre à ma question, il n'y a pas de, entre guillemets, il n'y a pas de péché originel.
Non.
Ça dépend si on est à la bonne place et c'est tout simplement...
Voilà, si on a fait le travail nécessaire sur soi-même pour se dire au fond, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui est important pour moi, quels sont les besoins que j'ai qui ont besoin d'être exprimés dans ma vie professionnelle comme dans ma vie personnelle, et est-ce que le contexte dans lequel je suis, le service, la taille d'entreprise, le type d'activité correspondent à ces besoins. Quand on est dans cette rencontre, on est dans une situation de satisfaction et on a l'impression de pouvoir s'épanouir dans le monde professionnel. Quand ça ne va pas, quand cette équation n'est pas là, et c'est vraiment là où nous rencontrons les personnes qui sont en repositionnement, eh bien il va falloir recaler les choses.
Frédéric Delbès, est-ce que quid de ce péché originel que je citais, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que de fait il y a quelque chose de pas juste à attendre une partie de son bonheur de son chef d'entreprise? Il peut y avoir une forme d'infantilisation de la part du salarié aussi, non?
d'infantilisation,
C'est-à-dire que on entend souvent, en tout cas en France, les gens comme s'il y avait une dichotomie, comme s'il y avait vraiment les salariés d'un côté et les chefs d'entreprise, et comme si les chefs d'entreprise étaient globalement responsables soit du bonheur, soit du malheur de leurs salariés. Est-ce que dans cette manière de voir, il y a quelque chose qui, à la racine, est juste ou pas juste?
Pour moi, elle n'est pas juste, et je rejoins Jeanlin. Nous sommes responsables du bonheur que l'on souhaite avoir en entreprise ou dans la vie. Et c'est facile, et c'est vrai qu'on l'entend, c'est la faute de l'autre. Donc c'est la faute du chef d'entreprise ou c'est la faute de mon voisin si je ne suis pas heureux. Donc commençons déjà par apprendre à nous connaître, nos fragilités, nos faiblesses, nos forces aussi, pour apprendre à découvrir nos besoins et pour apprendre aussi à les exprimer en entreprise. Donc je pense que le bonheur, il y a une co-responsabilité de l'entreprise, ça je n'en doute pas, mais aussi du salarié. Et je crois qu'il y a aussi un changement de façon de voir. Souvent en France, et je pourrais l'élargir, mais de façon générale, on part du quoi, qu'est-ce que je veux faire comme travail, comment je vais le faire, je vais me former comment, pour finir vers le pourquoi. Et je pense que c'est très intéressant d'inverser cette façon de penser et de partir du pourquoi. Pourquoi je me lève le matin pour fabriquer du pain? Peut-être pour voir le client et le sourire le matin. Pourquoi je me lève le matin? Ça revient à quel est le sens de mon travail. Pourquoi je travaille à Radio Présence? Et ensuite se poser la question du comment? Pour finir vers le quoi? C'est-à-dire qu'on inverse ce schéma-là. Ça peut aider.
Est-ce que vous avez l'impression que la plupart de vos salariés savent pourquoi ils travaillent les uns les autres? Et qu'est-ce que vous diriez là-dessus, Patrick?
On essaie de leur expliquer pourquoi ils travaillent et vers où ils doivent se diriger pour l'entreprise se développe.
Mais là, c'est deux questions différentes.
Mais il me semble que pour parler du bonheur dans le travail, il faut définir quelles sont les attentes des collaborateurs. Et dans l'analyse que j'ai faite depuis quelques années, il y a quatre considérations. La première, c'est l'intérêt dans le travail pour un collaborateur. Si c'est un travail qui lui plaît, c'est un point positif. Ensuite, il y a sa reconnaissance par ses pairs et par sa direction. Donc la reconnaissance, quelqu'un qui bosse bien et qui n'a pas de message positif par son environnement ou sa hiérarchie, c'est frustrant. Troisième sujet, et troisième axe, c'est la capacité d'évolution dans l'entreprise. Quelqu'un qui a 10 ans au même poste, il se sclérose et se frustre. Et dernier paramètre, bien sûr, forcément, est économique, c'est la rémunération. Et on constate que sur ces quatre paramètres, la rémunération n'est pas le principal pour nos collaborateurs. Voilà. Et ça, c'est un point important qu'il faut signaler, c'est qu'on parle souvent d'argent dans le travail, évolution de carrière, tu gagnes combien, etc. Dans l'entreprise, les gens qui ont un travail intéressant, qui sont reconnus par leur pair, et qui évoluent dans l'entreprise, et qui ont un salaire correct, après, effectivement, il ne faut pas que ce soit décalé par rapport au prix du marché, n'évoquent pas ce sujet-là. Et on peut être amené, on l'a dû le faire pendant une année et même presque deux, à ne pas augmenter nos collaborateurs pour sauver l'entreprise, qui est pas vraiment difficile, et bien les gens sont restés chez nous. Donc le salaire n'est pas forcément une caractéristique principale, et le bonheur du salarié, c'est son travail, sa reconnaissance et son évolution, de mon point de vue.
Patrice, pardon, Gilles de Raffin, qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet? Est-ce que...
Oui, je crois qu'au niveau du salaire, on est obligé quand même de distinguer les gens qui, je ne vais pas dire travaillent pour se faire plaisir, mais qui ont un niveau de vie suffisant, de gens qui ont la nécessité de travailler et de se battre euro après euro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un SPIC, on vit mal. Pour des gens qui sont au SMIC ou enfin après ça dépend du salaire par rapport à l'endroit où on habite et aux conditions familiales. Mais je crois que c'est des gens qui vont attacher beaucoup plus d'importance au salaire et risquent d'ailleurs de ne pas regarder assez l'intérêt du travail. D'autres sont dans le confort d'un salaire acceptable et vont plus se pencher sur la qualité du travail. Alors, je crois que les salariés, on ne peut pas se cacher, on est dans une économie marchande, on va travailler pour gagner sa vie, c'est la première chose. On n'y va pas, j'aurais tendance à dire on n'y va pas pour se faire plaisir. Bon, mais une fois que j'ai dit ça, il faut qu'on se fasse plaisir quand même. Et je crois que quand on est dans cette nécessité de rester accroché à la vie dans le système social, de conserver un logement, de conserver un salaire...
Ce que vous décrivez, on a l'impression que c'est plus de l'ordre de la survie. Alors c'est vrai que quand on fait des émissions comme ça, moi j'ai toujours un peu de scrupules parce que je me dis, ça peut apparaître comme un luxe de riche que de se poser la question de l'intérêt de son travail ou du bonheur au travail. Et il y a peut-être un certain nombre de personnes qui en effet ont des métiers peut-être plus pénibles, des rémunérations faibles et pour qui la question ne se pose pas en ces termes.
Alors c'est vrai que ces personnes vont moins se prendre le temps de se poser les questions du bonheur au travail. Donc il y a une pour ça. Il n'empêche que ces mêmes personnes, on peut voir les choses comme on veut, vous leur donnez le même salaire, au bout d'un moment, à la maison, à être inutile socialement, à ne rien donner, ça ne va pas non plus. Donc finalement, on retrouve quand même un bonheur, d'abord parce qu'il y a une vie sociale, mais cela étant, la vie sociale, vous pourriez l'avoir ailleurs, on n'est pas obligé de l'avoir, il n'y a pas que dans l'entreprise qu'on ait une vie sociale, mais il faut trouver un sens à ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait, et je crois que tout le monde a besoin de projets dans la vie, envie de la réaliser, et l'entreprise est un environnement pour réaliser ses projets. Et ça, personne n'y coupe. Moi, je vois beaucoup de monde dans l'entreprise, chez nous ou ailleurs, qui dit si je pouvais me passer de travailler, je ne travaillerais pas. C'est vrai que des fois, on a envie d'être un peu plus souvent sous les cocotiers qu'au boulot. Bon, il n'empêche que toute sa vie sous les cocotiers, à un moment, on finit par déprimer. Je crois qu'il y a plus de dépression en Europe qu'en Afrique.
Hein. Frédéric Delbès,
oui,
peut-être.
Moi, je pense aux chômeurs qui effectivement, ne sont pas contents de pas travailler. Nous sommes des êtres de relation. Donc, quel que soit le travail que nous faisons, nous avons besoin d'être en relation, d'être en communauté. Et cette reconnaissance dont on parle tous, je pense que c'est primordial, c'est cette reconnaissance inconditionnelle, pas une reconnaissance juste sur le travail, mais sur l'être. Je prends un exemple concret, une personne qui va être employée de maison, qui va faire le ménage, si on la considère comme une femme de ménage, c'est super péjoratif, il n'y a pas cette reconnaissance inconditionnelle. Elle fait son travail, mais point, c'est une femme de ménage. Si c'est une employée de maison, et qu'elle voit son travail comme je rends service à une famille qui toute la journée est dehors, et cette famille, quand elle rentre chez elle, elle voit que la maison est propre, que le repassage est fait. Je contribue à quelque chose. Et là, le travail peut être valorisant, et je peux me faire plaisir en nettoyant une maison et en faisant le repassage de cette famille qui travaille.
Voilà, donc être heureux au travail, être heureux en entreprise, ça n'est pas mission impossible, c'est presque même le programme à entendre nos invités. Je rappelle pour finir le titre de l'ouvrage du père Pascalide, interview au début de cette émission, Le Burnout, une maladie du don, paru aux éditions de l'Emmanuel. Merci beaucoup à tous nos invités. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry, vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.